La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N, Hélène Maquet.
Moi je l'ai su par la radio à 5h30 quoi. Il y avait des petites rumeurs après la pause, mais rien de certain.
Renault a décidé d'arrêter cette année la production de l'usine de Renault Industrie Belgique.
Il n'y a pas de façon douce de l'annoncer.
La pointeuse, la ligne de montage, les pauses, des années de travail avec la vareuse aux losanges, puis à la radio, une annonce qu'on n'attendait pas.
En une seconde, 3000 personnes apprennent qu'elles vont se retrouver à la porte. L'usine Renault de Vilvoorde était pourtant moderne et productive, mais en février 1997, elle a fermé ses portes brusquement.
Cette annonce a déclenché une mobilisation importante, un mouvement social d'ampleur. La Belgique entrait dans l'euro et perdait des usines.
Mais la contestation n'a rien changé, l'usine a bien fermé. En revanche, les ouvriers ont obtenu un plan social plutôt généreux et une nouvelle loi, la loi Renault sur les licenciements collectifs.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de l'histoire continue qui se replonge aujourd'hui dans l'histoire sociale et économique du pays et revient sur une des pages les plus fameuses, les plus marquantes aussi de cette histoire récente.
Oui, on s'arrête dans les années 90 alors que l'on paye encore en francs belges à l'époque et qu'on écoute les toubitrices, certains
enfin,
d'entre
vous,
nous.
Vous ouais. Non, un peu parfois,
allez,
à la radio.
Je suis contente que vous l'avouiez. C'est l'annonce, donc surprise, de la fermeture de l'usine Renault de Vilvoorde, l'une des plus anciennes usines d'assemblage automobile en Belgique et la plus grande aussi, avec 3000 travailleurs à l'époque. L'assemblage automobile, c'était devenu une spécialité belge puisque VW, Opel, Volvo ont des usines sur le territoire flamand et bruxellois.
Oui, et la fermeture de Renault Vilvoorde annonce une longue série de fermetures, une vague de délocalisation de l'industrie automobile dans des pays à plus bas coût de main-d'œuvre. Mais le conflit de Renault est resté marquant par la violence sociale qui a accompagné l'annonce de la fermeture. La décision française a été surprenante, brutale. L'ensemble de la classe politique s'en est d'ailleurs offusqué et l'épisode a donné naissance à une loi, la fameuse loi Renault dont on entend beaucoup parler, et notamment aujourd'hui encore avec Deleuze, qui fixe des règles plus strictes en cas de licenciement collectif. C'est cette loi qui prévoit une phase de négociation obligatoire dont on parle donc aujourd'hui avec Deleuze. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui nous a poussé à remonter aux sources de cette loi Renault.
Oui, il faut dire aussi que le conflit est marquant par son intensité, par sa longueur. Le combat des ouvriers de Renault a émaillé toute la première partie de l'année 1997 et est resté comme un symbole d'une Europe qui protégeait la concurrence et le marché libre, mais beaucoup moins les travailleurs.
Oui, et voilà donc bien des raisons de se replonger dans ce conflit social chez Renault et dans l'histoire économique de la Belgique avec comme invité Kenneth Bertrams. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire de l'économie à l'Université libre de Bruxelles. Alors Renault Vilvoorde, pour vous, est-ce que vous diriez, en tant qu'historien, que c'est un moment charnière de l'histoire sociale et économique du pays?
Alors c'est un moment charnière quand on regarde effectivement les 50 dernières années. Il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de le dire en matière d'amorce de la désindustrialisation. On va sans doute en revenir sur ce point. Également en termes de mobilisation. Je trouve que là, il y a quelque chose vraiment de très prégnant. En revanche, si je puis me permettre, quand on dézoome un tout petit peu, on a plutôt l'impression qu'on est dans un moment un peu moins charnière, plutôt dans une lame de fond de continuité. Donc c'est vraiment en fonction des échelles temporelles qu'on va prendre qu'on pourra le dire. Mais pour les 50 dernières années, là c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
Allez, on se replonge dans nos archives, jour où tout à coup la déflagration résonne à Vilvoorde.
Ce matin du 27 février 1997, le balai des voitures et des camions n'a pas encore commencé sur le ring de Bruxelles. À Vilvoorde, le viaduc qui enjambe l'immense zone industrielle est encore calme. Il surplombe le canal de Willebroek, les rails de chemin de fer de la ligne Bruxelles-Malines, l'autoroute vers Anvers et un entrelacs de routes et de voies rapides. Dans ce petit matin, les cheminées se détachent une à une, formant la skyline industrieuse du nord de Bruxelles. En contrebas du viaduc, dans l'étalement sans fin des entrepôts, plusieurs camions font la file devant l'un des accès de l'usine Renault. En fin d'usine, il faudrait plutôt parler d'une petite ville. 60 hectares d'usine d'un jaune pâle qui se fond tristement dans la pollution ambiante. Il est habituellement tôt pour des livraisons. Mais les camions se chargent sans discontinuer de Clio et de Mégane, les deux modèles les plus populaires de la gamme Renault. Elles sont assemblées par près de 2600 ouvriers et l'usine emploie 3000 personnes. Vers 6 heures, les ouvriers de l'équipe du matin arrivent. Et là, c'est la surprise, car ces livraisons matinales sont très inhabituelles. Ils apprennent, ces ouvriers, tant bien que mal, que les camions transfèrent les voitures vers d'autres sites du constructeur. Un doute les envahit. Pourquoi Renault vide-t-il les voitures du parking ? Les rumeurs les plus folles courent, les syndicats ne sont au courant de rien, mais après quelques heures, la réponse tombe.
Renault a annoncé en fin d'après-midi la fermeture de son usine de Vilvorde. Un coup très dur pour l'emploi, 4500 personnes environ vont être touchées par cette décision.
Au milieu de l'après-midi, les syndicats sont convoqués par la direction de l'usine pour un conseil d'entreprise extraordinaire. Mais au même moment, dans un hôtel cossu du centre de Bruxelles, le numéro 2 de Renault, Michel de Virville, secrétaire général du groupe, a réuni la presse. Barbe taillée, cravate serrée, il lit scrupuleusement un communiqué.
Renault a décidé d'arrêter cette année la production de l'usine de Renault Industrie Belgique. La qualité de la production de l'usine de Renault Industrie Belgique, les efforts très importants que l'usine a fait au cours des dernières années en matière de productivité ne sont pas en cause. Si ce site est fermé, ce n'est pas parce que c'est un site qui fonctionne mal ou parce que c'est un site qui offrait des véhicules de qualité médiocre ou dont la productivité serait mauvaise.
Une des plus grandes usines de Belgique va donc fermer. Et rien, ou presque, ne le laissait penser. L'annonce surprend les journalistes, les politiques, les ouvriers et les syndicalistes. Ce jour-là, Karel Gakoms, de la FGTB, ne montre que de l'hébétude.
Pour l'instant, nous sommes en train d'organiser une première manifestation. Donc, les travailleurs ont quitté l'usine. Ils sont partis en manifestation vers Vilvoorde. Pour le restant, nous bloquons les parkings, qu'on ne peut pas sortir la voiture achevée. Et en plus, nous bloquons certaines machines vitaux.
Demain, est-ce que vous acceptez la fermeture de l'usine ?
Mais non, nous ne pouvons pas accepter la fermeture de cette usine et certainement pas la manière sur laquelle on ferme cette usine. Parce que avant ce matin, il n'y avait personne qui était au courant. À 5 heures, on a été averti officiellement d'une fermeture au mois de juillet déjà. Et à partir de 3 heures, il y avait des rumeurs.
La fermeture suscite la consternation. Les ouvriers lancent une occupation de l'usine Dardar. Ils empêchent désormais les quelques 2000 Clio et Mégane de sortir. Durant ces longues nuits, les discussions vont bon train. Pour eux, la décision est injuste et ingrate, car ils ont accepté des réductions de salaire et de la flexibilité pour améliorer la compétitivité de leur usine.
Moi, je l'ai su par la radio à 5h30, quoi. 5h30, je l'ai appris. J'étais dans la pause du matin. Il y avait des petites rumeurs après la pause, mais rien de certain. Et je me dis, je ne vais pas m'alarmer là-dessus. Mais en rentrant, quand j'ai entendu ça, et là, j'ai trouvé quand même que c'était grave, qu'il avait quand même été un peu loin. Au moment où il avait besoin de beaucoup de voitures, on travaillait à temps plein, mais c'était 5 jours semaine. Quand il n'avait pas besoin de voitures, on était en récup. Donc ça, que ce soit l'été et l'hiver, c'était pareil, quoi.
Les anciens étaient plus réticents. Il a quand même fallu s'adapter. Ils ont voulu s'adapter pour nous. Et pour le progrès d'usine, parce que c'était ça.
L'abandon de l'usine de Vilvoorde, fondée en 1925 par Renault, tombe dans un moment particulièrement difficile, en Belgique. Affaire du trou, austérité budgétaire, grève des profs, fermeture des forges de Clabecq. Renault Vilvoorde, c'est comme un coup de poing dans une décennie bien pourrie. La question qui s'ouvre alors, c'est pourquoi ? Pourquoi fermer l'usine la plus rentable du groupe ?
De toute évidence, la décision de fermer l'usine n'a guère de justification économique au sens strict du terme. En revanche, elle est très politique. Les très mauvais résultats du groupe Renault en 96 l'obligent à prendre des mesures draconiennes. Et au moment où le chômage français fait un nouveau bond, il serait de mauvais goût de faire supporter l'effort par la France. Le premier actionnaire de Renault, à 48%, c'est encore l'État français. Ce sont donc les Belges qui feront les frais politiques de la restructuration. Pour le ministre français du Travail, Jacques Barrot, il ne s'agit que d'une simple décision technique. En fait, c'est une délocalisation. La France rapatrie ses emplois au risque de créer le désarroi en Europe. Mais, et cela aussi c'est l'Europe, le massacre social décidé par les dirigeants de Renault a fait quelques rentiers heureux. Le cours de l'action a bondi de 13% en 24 heures. Qui dit mieux ?
L'explication est donc en partie économique, en partie politique. La Belgique serait une nouvelle fois victime de sa faiblesse, mais des emplois seront supprimés aussi en France, même si ce fut moins violent. Renault souhaite construire ses voitures dans des pays à bas coût, l'Espagne et la Roumanie. Le contexte est donc celui de la mondialisation galopante et d'une désindustrialisation massive. Dans cette Belgique qui se prépare à abandonner le franc belge pour entrer dans l'euro, les usines ferment les unes après les autres. Le Premier ministre Jean-Luc Dehaene, justement originaire de Vilvoorde, apparaît désemparé.
Le gouvernement est consterné par la décision de Renault de fermer son établissement de Vilvoorde. C'est une décision brutale d'une direction qui établit sa stratégie de façon lointaine et détachée des réalités sociales sur le terrain. Cette décision et cette manière d'agir sont pour nous inacceptables dans le respect des compétences de chacun. Le gouvernement fédéral veut, en concertation avec le gouvernement flamand, voir comment réagir pour essayer d'infléchir encore cette décision.
Mais reste-t-il un espoir d'infléchir cette décision ?
Ça, disons, c'est difficile à évaluer. Je pense qu'il faut tout faire, tout en sachant qu'on se trouve devant des structures et des pouvoirs de décision sur lesquels on n'a pas d'emprise directe.
Une Belgique faible dans une Europe faible. La Commission européenne apparaît comme incapable de faire face à ce phénomène de désindustrialisation. Elle est même accusée par les syndicats de l'encourager. Les socialistes au pouvoir en Belgique et à la Commission sont en position très délicate. Karel Van Miert, socialiste flamand, tout puissant commissaire à la concurrence, apparaît sur ce dossier bien seul et bien démuni.
Eh bien, quand on ferme un site tel que Vilvoorde, qui est très performant, flexible, on a fait des investissements très considérables il y a quelques années encore, dont on sait que la qualité des produits est excellente, c'est très bizarre qu'on ferme exactement ce site-là. Donc, j'ai plutôt tendance à croire qu'il n'y a pas que des considérations économiques. Et malheureusement, on ne nous a pas donné les moyens de vérifier ce genre de choses.
Donc, quelque part, vous êtes impuissant.
Jusqu'à maintenant, dans ce genre de cas, oui.
Impuissant, c'est sans doute le mot qui caractérise le mieux l'attitude des autorités dans cette crise. D'ailleurs, très vite, le débat public s'oriente plus sur la forme, très violente, qu'a pris cette fermeture, que sur le fond. Plus que la désindustrialisation, c'est la manière de communiquer la fermeture par Renault qui choque. Louis Schweitzer, le PDG de Renault, est donc convoqué deux jours après l'annonce par le gouvernement flamand pour s'expliquer. Eric Van Rompuy, CVP, est à ce moment-là ministre flamand de l'économie.
Il y a une certaine procédure qu'on doit respecter quand on ferme une entreprise, c'est l'information des travailleurs. On a donné une conférence de presse au même moment qu'on n'a pas informé les travailleurs. La décision sans préavis, sans procédure, on a eu des réunions deux semaines avant la décision en parlant des plans pluriannuels sur l'entreprise et tout ça, ça on n'accepte pas.
Vous pensez pouvoir le contraindre à revenir sur sa décision et à garder l'usine ouverte à Vilvoorde ?
On n'accepte pas la décision. C'est un acte terroriste sur l'économie flamande. Et ça, on n'accepte pas.
Terrorisme. Le mot d'Éric Van Rompuy, plutôt classé à droite de son parti, le CVP, révèle bien l'indignation soulevée par l'annonce de Renault en Belgique. Mais les mots, même puissants, ne changeront rien. La rencontre avec Louis Schweizer ne débouchera sur strictement aucune avancée. La décision française est bel et bien maintenue. Louis Schweizer, pur produit de l'École nationale d'administration française. Protestant, passé par les cabinets socialistes, il ne s'exprimera pas ce jour-là. Grand, maigre, lunettes d'écailles bien carrées, mèches soigneusement lissées sur le front, il n'évoquera qu'une seule fois le dossier Renault devant la presse, à Paris, au moment qu'il l'a choisi, et ses mots seront ciselés, pesés et tranchants.
La décision de fermer une usine de plus de 3000 personnes, il n'y a pas de façon douce de l'annoncer. Je ne sais pas dire autre chose face à quelque chose de difficile que la vérité.
Louis Schweizer, inébranlable, l'usine Renault occupée. Les manifestations vont émailler tout ce début d'année 1997, avec souvent des face-à-face musclés avec la police. Plusieurs fois, des ouvriers des forges de Clabecq qui font eux aussi face à la fermeture de leur usine décident de monter à Bruxelles. On va y aller. Arrivés à la capitale, les délégations syndicales se retrouvent. Entre Nord et Sud, la Belgique sociale donne une image de résistance.
Ne tombez pas dans les provocations des forces du désordre.
Climat tendu, mais encore bon enfant. Après de longues minutes d'attente, ce n'est pas sans émotion que les travailleurs des forges ont retrouvé ceux de Renault, le Dorazio de Clabecq faisant l'accolade, ou Dorazio flamand, comme ils l'appellent.
On se met juste derrière les gens de Renault. Hein. On les laisse passer et après on y va.
Ils sont partis.
De Forge Clabecq, c'est un ouvrier.
Si on laisse faire maintenant, alors c'est même pas nous, c'est nos enfants qui vont payer en plus.
Il y a des travailleurs de France, de partout. C'est le début peut-être de l'Europe sociale, elle commence peut-être aujourd'hui.
L'Europe sociale, l'Europe industrielle, les manifestants espèrent pouvoir changer le cours d'une Europe encore jeune. Le traité de Maastricht, qui pose les bases de l'euro et pousse très loin l'intégration économique des États membres, n'a que 5 ans à l'époque. Mais aucun de ces slogans ne parviendra à changer le cours des choses. En avril, le travail reprend, les ouvriers sont rincés de plus de 2 mois de grève. Le seul petit signe de victoire provient des tribunaux.
La décision prise hier par le tribunal du travail de Bruxelles et celle arrêtée aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Nanterre vont dans le même sens. Renault ne peut poursuivre la mise en œuvre de la fermeture de l'usine de Vilvoorde. Le groupe n'a pas respecté les procédures d'information et de consultation des travailleurs. Mais l'usine de Vilvoorde n'est pas sauvée pour autant.
Cette décision du tribunal ne remet pas la décision de fermeture de Renault en cause. En fait, il s'agit uniquement d'une question de procédure. Est-ce que la procédure a été respectée ou non ? Le tribunal estimait que la procédure n'avait pas été respectée et ordonne à Renault de recommencer la procédure.
Renault est condamné pour non-respect des procédures. Qu'à cela ne tienne, Louis Schweizer relance une nouvelle procédure et tient ses délais. Les syndicats ne parlent alors plus de relance de l'usine, mais négocient un plan social. Les primes de départ des ouvriers plutôt généreuses, des prépensions à partir de 50 ans. Un accord est alors trouvé et la crise se dénoue. Cette sortie de crise inespérée est peut-être due à un coup de pouce du destin. Le président français Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale. Il pense pouvoir emporter une plus large majorité parlementaire. Mais c'est la gauche de Lionel Jospin qui arrive au pouvoir après la dissolution. Lionel Jospin pousse pour que Renault règle le dossier de manière moins brutale.
Mais j'ai tenu mon engagement. À aucun moment dans la campagne, vous n'aurez pu m'entendre dire si la gauche vient à gagner les élections, Vilvoorde sera réouvert. Je ne pouvais même pas trancher de la réalité du dossier industriel. Et il ne me revenait pas à moi, homme politique, d'en trancher. J'ai dit, le dossier sera réouvert. Nous l'avons réouvert. Nous avons réouvert les discussions, permis que les discussions s'engagent à nouveau entre la direction de l'entreprise et les salariés. Un expert indépendant a été nommé, c'était quand même normal. Si ça avait été un expert du gouvernement, ou si ça avait été un expert de l'entreprise, qu'en aurait-on dit de ses conclusions? Il fallait donc qu'il soit indépendant. Et surtout, on constate au bout du compte qu'il y a une réindustrialisation sur le site, même si elle peut être jugée comme insuffisante. Il y a un plan social qui est exceptionnel dans ses dispositions. Et donc, il n'est pas vrai que les choses vont se terminer comme elles se seraient terminées s'il n'y avait pas une nouvelle majorité aujourd'hui en France.
Finalement, le 4 septembre 1997, avec 2 mois de retard sur le calendrier prévu, l'usine ferme définitivement ses portes. La dernière Renault Mégane sort des chaînes de montage. Les caméras sont là, les ouvriers ont prévu une petite fête, des cartons sont collés sur le pare-brise. On peut y lire « Nous étions les meilleurs, un modèle pour la France ».
Ça fait mal. Très mal. Mais je pense que tous les ouvriers ici sont assez tristes parce que c'est la fin d'une assez longue période de production de voitures et maintenant c'est vraiment la dernière voiture qui est assemblée ici à Vilvoorde et ça fait beaucoup mal au cœur.
Alors dans les jours à venir, qu'est-ce que toutes ces installations vont devenir ici?
En principe, ces installations vont rester une certaine période intacte pour donner la possibilité à repreneur pour reprendre le site ici à Vilvoorde et puis après quelques mois, elles seront démantelées s'il n'y a pas de repreneur qui arrive.
C'est ça, mais vous n'avez pas plus d'informations là-dessus?
Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations là-dessus et nous pensons qu'il y a peu de chances qu'on va vraiment reprendre la construction automobile ici.
Et en effet, comme le redoute Karel Gacoms de la FGTB, l'usine ne sera pas reprise. Aujourd'hui encore, le site de Renault Vilvoorde, pourtant idéalement situé, n'a pas été totalement réaffecté. La dépollution des sols est toujours en cours, 25 ans après. Quelques mois plus tard, après cette fermeture, début 1998, le gouvernement de Hahn a décidé d'une nouvelle loi prévoyant des règles plus strictes lors des licenciements collectifs. La loi est restée dans l'histoire comme la loi Renault. 3100 personnes ont perdu directement leur emploi chez Renault Vilvoorde.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Alors on retrace toute cette histoire de la fermeture de l'usine Renault Vilvoorde de 1997 à aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment cette histoire résonne aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes avec Kenneth Bertrams, historien de l'économie à l'ULB. À l'époque, la couverture médiatique, et on l'entend dans la richesse des archives, elle était massive. Pourquoi est-ce que l'annonce de la fermeture de cette usine Renault Vilvoorde a été une telle déflagration dans la société belge ?
C'est sûr que quand on entend aujourd'hui les taux de mobilisation, la façon dont des choses ont été dites sur le plan social, on a l'impression que c'est déjà un autre monde. Hein. En entendant l'archive, et félicitations d'ailleurs pour ce magnifique montage, je trouve, qui resitue bien les choses, j'ai de plus en plus à croire qu'on ne peut pas penser Renault Vilvoorde sans Clabecq. Et il est évident pour moi...
Donc les forges de Clabecq.
Absolument.
Il faut peut-être redire un mot, parce qu'on les entend en décor, ces ouvriers de Clabecq, qui disent Clabecq, Renault, même combat. C'est parce qu'eux aussi, ils font face à la fermeture à ce moment-là
exactement.
De leur usine.
Exactement. Conflit extrêmement violent, avec des taux de participation, de mobilisation syndicale très intenses.
Roberto Doradio, qui est quasiment une icône à l'époque.
Absolument. Et si je me souviens bien, l'incident qui avait marqué tous les esprits, où il y a une altercation, appelons-la comme ça, entre Roberto Doradio et le curateur
Alain Zener
exactement a lieu quelques jours ou quelques semaines avant l'annonce de la fermeture. Donc on est dans un climat d'instabilité sociale maximale et je crois vraiment que Renault doit s'inscrire dans cette séquence-là en tant que deuxième fermeture coup sur coup et surtout, si je puis me permettre, on passe là de la Wallonie à la Flandre, on est dans le même bain, on est dans le même bateau et ce bateau est en train de couler. Ça, c'est vraiment mon sentiment aujourd'hui. On pourra en parler si vous voulez après, mais ça en dit long aussi sur l'aspect politique et fédéral des choses. Je trouve ça vraiment un élément tout à fait cristallisant de cette question-là. Oui.
Et c'est intéressant aussi parce que c'était inattendu. Moi, je sais très bien que les collègues, j'étais pas là, je travaillais pas encore
au moment de la fin de tournoi.
Mais en revanche, je me souviens des collègues qui étaient à cette conférence de presse à Bruxelles et qui disaient jamais on n'aurait pu imaginer que c'était ça qu'on allait nous annoncer. Il y avait un élément de surprise incroyable aussi à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Et il y a eu beaucoup d'éléments sur la communication. Et quand on entend le désarroi des ouvriers, on nous dit à 5h du matin, l'annonce est faite et que le même jour, ce communiqué est lu, c'est quand même extrêmement violent. C'est vraiment très, très difficile. Après, il y a eu effectivement des choses qui ont été faites sur la manière de communiquer. Moins, effectivement, sur le fond et le contenu réel du dossier, où là, on a l'impression que les choses sont encore très floues.
Comment expliquer, peut-être maintenant sur le fond, la décision de Renault, la perte de cette usine? Parce qu'on sait que dans l'automobile, il y en aura d'autres, mais vous avez raison de citer Clabecq. Dans d'autres secteurs, à ce moment-là, on assiste à une désindustrialisation de la Belgique. Comment l'expliquer? Peut-être revenir sur le contexte. En 97, on n'est pas encore rentré dans l'euro. La Belgique fait beaucoup d'efforts. On peut sans doute parler à ce moment-là d'une forme d'austérité, de rigueur. Alors les mots, c'est toujours l'un ou l'autre selon un peu la position politique. Mais enfin, c'est vrai qu'on est dans une politique assez dure à ce moment-là dans les finances publiques. Et comment ça se fait que cette décision de Renault, elle intervient à ce moment-là comme ça? C'est pas le hasard.
Non, c'est pas le hasard. Alors, il faut toujours distinguer, j'ai l'impression, ce qui se passe avant, au moment où les acteurs et les ouvriers, les ouvrières de Renault apprennent la décision, et ce qui se passe après. Et là, ils le savent moins. Nous, on le sait, évidemment, on a le recul. Oui. Donc, on connaît la séquence d'après. Mais quand cette information est annoncée, quand tout ça se sait en 97, ce qui se passe, c'est quand même depuis 6-7 ans, on a tendance à un petit peu l'oublier, mais c'est une nouvelle Europe qui se construit.
Oui.
Et cette nouvelle Europe est fondamentalement asymétrique sur le plan social. Fondamentalement. Alors, il y a des rencontres qui ont lieu au sommet, déjà à l'époque, entre Mitterrand, Kohl et beaucoup d'autres, pour dire on aura besoin de vous pour que finalement cette Europe qui est en train de se construire, et je pense en particulier évidemment à l'Allemagne, mais tous les autres pays qui sont en train d'arriver, eh bien soit renforcée sur le plan social et donc industriel, et donc on a besoin d'une sorte de New Deal entre la nouvelle Europe et l'ancienne Europe. Alors ça, évidemment, ça va créer des externalités, j'ai envie de dire, et surtout un transfert qui va s'opérer progressivement en matière de réindustrialisation. C'est plutôt vers l'Europe centrale orientale que les grandes entreprises industrielles vont regarder.
Alors Renault, c'est clair, c'est devenu Dacia en Roumanie notamment. C'est ça la stratégie.
Absolument, exactement. Oui. C'est ça qui se passe. L'autre chose, mais ça c'est un peu plus politique, c'est quand même ce passage de Mitterrand à Jacques Chirac et le fait quand même, on a tendance à l'oublier parce que même quand on entend Lionel Jospin qui effectivement arrive par les circonstances en 1997 au pouvoir à la majorité et donc on est dans une situation de cohabitation, on a tendance à l'oublier, mais il n'y a pas un dialogue fortement noué et très très ambitieux et très bien construit entre Jean-Luc Dehaene d'un côté et Jacques Chirac. On le sent bien, ils sont démunis. Mais donc pour revenir sur l'aspect industriel, on voit vraiment ce passage à l'Est, si je puis dire, et à l'époque il y a énormément de discussions sur les Roumains, les Polonais, c'est vraiment aussi une tendance un petit peu, je m'excuse de le dire, mais un peu xénophobe qu'on entend en Belgique et partout ailleurs, en France y compris, pour dire ils vont venir nous voler notre travail. C'est ça qu'on entend en 1997.
Et c'est quand même intéressant de noter rapidement qu'à l'époque, l'État français est actionnaire à 48% de Renault. Ça, c'est aussi une autre époque.
Mais tout à fait. Mais il y a quand même encore, quand on lit la presse internationale, des pans entiers de l'industrie française qui sont aux mains de l'État. Donc, quand Lionel Jospin dit « je ne peux rien faire, ce n'est pas le gouvernement qui »,
On
a dû à le croire, voilà, mais le gouvernement, l'État est actionnaire majoritaire. Donc c'est pour ça que je dis que s'il y avait eu un coup de fil, et même plusieurs coups de fil, et plus de rencontres entre les personnels politiques belges d'un côté et français de l'autre, peut-être on aurait, alors peut-être pas évité complètement la fermeture, mais en tout cas la manière, encore une fois, n'aurait jamais été celle qui a été celle provoquée par Renault en février 1997.
Alors, s'il y a un élément aussi qui marque cette crise, c'est vrai que c'est à la fois l'Europe, c'est à la fois le pouvoir fédéral, peut-être aussi déjà le moment où les ouvriers et le mouvement social se demandent à qui doit s'adresser dans ce conflit. Je vous propose d'écouter l'extrait d'une émission de 1997 qui fait suite à l'annonce de la fermeture de Renault. C'est l'émission Les Pieds dans le Plat. Elle était connue
toute
pour
une
avoir...
époque aussi.
Toute une époque, présentée par Jean-Claude Defossé, qui est connue pour avoir un ton plutôt critique, on va le dire comme ça. Ben, je vais vous le mettre, on va l'entendre dans le jus, hein, cette archive. La responsabilité et les pertes d'emplois massives sont entièrement imputées à l'Europe. On écoute.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce qui se passe à Clabecq ou chez Renault à Vilvoorde inquiète de plus en plus les travailleurs, bien sûr, mais aussi l'ensemble de la population. Car apparemment, nous devons tous désormais plier sous le poids de règles économiques absolument implacables, mais en tout cas désastreuses sur le plan social.
Pour se justifier, que ce soit à Clabecq, à Vilvoorde ou ailleurs, le patronat invoque la nécessité absolue d'être compétitif dans un marché désormais totalement soumis à la concurrence, que ce soit au niveau européen ou mondial. Quant aux responsables politiques qui ont applaudi en général à l'ouverture des marchés, eh bien, ils se sentent complètement impuissants devant la destruction de pans entiers de notre tissu industriel et aussi devant des licenciements massifs de travailleurs.
Et on comprend dès lors que l'Union européenne ne suscite plus guère d'enthousiasme, d'autant que ce grand marché dont on nous avait tant vanté les mérites nous plonge en réalité dans un monde impitoyable. C'est ce qu'on va voir immédiatement avec notre séquence Fiel.
Est-ce que vous pensez que l'Europe va résoudre les problèmes des travailleurs?
Jamais, vous voyez?
Jamais.
Et c'est le chef qui dit, là.
Pardon?
Et c'est le chef, là.
Et c'est le chef qui le dit?
Oui.
Ah bon?
L'Europe n'est pas faite pour les travailleurs, l'Europe est faite pour les riches. C'est les riches qui s'enrichissent, ou pas?
Longtemps favorable à la construction européenne, beaucoup de travailleurs l'aperçoivent maintenant comme une machine infernale à broyer du social. Ses rouages tournent au service d'un seul dogme, la libre circulation des capitaux, des marchandises et des services. Une pensée unique au service d'un marché unique, censé faire monter tous les Européens au paradis de la prospérité. Très symbolique ce berlaymont caché sous un voile pudique. C'est ici que les commissaires européens, sorte de proconsuls quasi intouchables, ont pris dans le plus grand secret de nombreuses décisions uniquement inspirées par le dieu libre-échange. Les citoyens ne sont plus dupes de ce manque de démocratie.
Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe, c'est quelque chose de démocratique, où vous pouvez avoir votre mot à dire?
Non, non, pas du tout. Pas du tout.
Elle est au service des gros bonnets, c'est tout.
Ah bon?
Dans cette tour de Babel qu'est la Commission, ces eurocrates sont littéralement harcelés par plus de 10 000 lobbyistes qui, dans leur écrasante majorité, défendent les intérêts du monde des affaires. Quant à la voix du monde du travail, ceux qui construisent l'Europe de leurs mains savent qu'elle n'arrive pas à s'en faire entendre.
Pour vous, la Commission européenne, elle est au service des travailleurs ou au service des capitalistes?
Eh bien, écoutez, moi, pour moi, personnellement, certainement au service des capitalistes.
L'Europe du business, c'est du concret, des mécanismes contraignants pour tous, jusqu'au niveau multinational. Par contre, quand les travailleurs observent le bilan social de la communauté, ils ont de quoi être amers.
Il y a plus de chômeurs maintenant qu'avant. Ben oui. Donc l'Europe ne résout pas le problème du chômage.
Au contraire, à mon avis, au contraire. Il va créer des chômeurs.
Quand vous croyez que l'Europe, c'est pas une bonne chose pour les travailleurs?
Ah non. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout.
Au lieu d'être le bouclier de notre modèle de protection sociale qui est unique au monde, l'Europe fait totalement le jeu de l'ultralibéralisme. Elle met délibérément ses travailleurs en concurrence directe avec ceux de pays où fiscalité, salaire et protection sociale sont bien moins élevés.
Il y a du bon et il y a du mauvais, mais moi je considère qu'il y a plus de mauvais que de bon.
Dans l'Europe.
Dans l'Europe.
La première.
9h, 10h.
L'histoire continue.
Bertrand N., Hélène Maquet.
Voilà, la séquence donc des pieds dans le plat avec la musique de Terminator, quasiment à la fin. Bon, c'était une émission en ton critique, on va le dire comme ça, mais c'est quand même une charge dans cette séquence qui était la séquence Fiel, donc c'était une séquence plutôt dure. Mais je l'ai reprise parce qu'elle dit quand même bien du débat de l'époque. Bon, quand on entend commissaire des proconsuls, pensée unique, le dieu du libre-échange. Bon, Kenneth Bertrams, avec le recul, c'est quand même une époque où on s'interroge sur ce que va nous faire l'Europe en matière d'économie. On ne sait pas à ce moment-là si ça va déboucher sur plus d'emplois, plus de chômage. Il faut le dire aussi, à l'époque, il y avait beaucoup plus de chômage qu'aujourd'hui.
Voilà, oui, oui. Le contexte, la conjoncture, comme on dit, sociale-économique, est quand même très, très difficile. Et l'Europe est à la croisée des chemins entre vraiment davantage l'approfondissement, on va dire, de cette intégration par le marché et l'ouverture, en effet, capitaux, services, toutes ces questions-là, ou d'autre part, davantage de place à une Europe, appelons-la, des nations, avec là aussi du protectionnisme et des choses comme ça. Ce qui est étonnant dans l'extrait que vous avez fait passer, c'est qu'il y a quand même un héritage un petit peu de cette vision d'une Europe tour d'ivoire, hein, oui. Ou inaccessible. Je retrouvais aussi, préparant l'émission, des interviews où la plupart des ouvriers disent que de toute façon l'Europe, voilà, elle est inaccessible, c'est le grand inaccessible. Et on perd toujours à l'esprit le fait qu'il y a cette confusion entre la Commission d'un côté et le Conseil, et que la plupart des décisions quand même sont prises par les États membres, évidemment, dont la Belgique, et qu'il y a aussi une poussée beaucoup plus libérale dans les États membres à ce moment-là. Donc quand on regarde et qu'on fait l'addition de tous les États membres, ben, il y a des coalitions davantage centre-droit à ce moment-là, il faut le dire, et ça, c'est pas faux, qu'il y a quand même un curseur davantage vers une idéologie qui est davantage libérale. Ça, c'est vrai aussi. Mais de là à dire que c'est le grand inaccessible ou, oui. Ou les proconsuls, ça, il y a un peu, ça participe un peu de l'effort de cette machine de guerre qui va broyer du social. Bon, avec le recul, on a tendance à dire que c'est pas faux, même si ce n'est pas comme ça que fonctionne effectivement l'Union européenne.
Alors, un des grands héritages de la fermeture de l'usine Renault à Vilvoorde, c'est la loi Renault. Et ça, c'est une loi belge. Bah, concrètement, peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est la loi Renault, et puis est-ce que la loi Renault, elle a vraiment eu un impact ?
Elle a eu un impact, et d'ailleurs, on l'entend hein, dans la première archive. Il ne faut pas oublier qu'on parle vraiment ici de communication préalable dans un cadre de concertation. C'est vraiment deux éléments essentiels.
Parce que la loi Renault, en réalité, elle va organiser la manière dont se passent les restructurations ou les fermetures d'usines, d'entreprises.
C'est exactement. Donc on parle ici vraiment de procédures dans le cas de fermeture.
En gros, on est obligé d'informer les travailleurs et puis négocier.
Exactement. Et la négociation qui se met en place. Donc beaucoup, on l'a entendu à la fin, ça ne remet pas en cause la fermeture en tant que telle. D'accord, mais la procédure, c'est quand même un élément essentiel. Et la justice a joué son rôle, vous l'avez dit dans l'archive. Mmh. Hein. Il y a eu vraiment plusieurs cas où des décisions ont été prises, des décisions juridiques qui ont amené Renault à rebattre ses cartes. Alors pas complètement en termes de pour revoir la fermeture, ça c'est vrai que ça relève, on va dire, de la décision stratégique, appelons-la comme ça, de l'industrie. Mais en matière vraiment d'annonce, d'information et surtout d'intégration des travailleurs, des délégués du travail, ça a changé la donne. Et aujourd'hui encore, on se réfère souvent à la loi Renault pour ça.
Oui, notamment alors dans le conflit de Deleuze, on y vient parce que c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'aller chercher. Tiens, mais bon, revenons à Renault Vilvoorde, puisqu'on parle tout le temps de cette loi Renault dans le débat public. Loi Renault que les syndicats considèrent comme étant bypassée, contournée par la direction de Deleuze dans cette étape de franchisation massive. Alors on ne sait pas encore d'ailleurs si à un moment donné, on ne va pas y revenir quelque part dans ce conflit de chez Deleuze. Mais peut-être quel regard vous avez en tant qu'historien entre ce qui s'est passé là en 97 et ce qui se passe maintenant comme mouvement social chez Deleuze. Est-ce que vous y voyez des résonances ou est-ce qu'au contraire vous vous dites attention, là on n'est pas du tout dans le même contexte et c'est pas du tout le même mouvement social ? Parce qu'on a un peu cette réminiscence de Renault quand on voit ce qui se passe chez Deleuze.
Oui, tout à fait. Avec quand même, bon, pourquoi finalement, disons-le d'emblée, y a-t-il moins de mobilisation et plus que ça ? Alors moi je crois qu'il y a plusieurs explications. Première chose, on est dans un secteur de la distribution qui est très différent par rapport à la structuration syndicale. C'est très important parce que voilà, ça évoque aussi quand même beaucoup de choses. La façon dont Renault, Vilvoorde est devenu un symbole ni en Belgique, c'est-à-dire Flandre, Bruxelles et Wallonie avec Clabecq, la séquence est très importante, je le disais encore, Forge de Clabecq, fermeture, Renault-Vilvoorde. Il n'y a pas une séquence équivalente, même si on peut parler, hein, Caterpillar et autres, mais c'est un peu déjà éloigné pour les gens ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc Deleuze est un petit peu isolé, on va dire, par rapport à ça. L'autre chose qui me semble très important aussi, c'est le fait que finalement, on n'est pas du tout dans la même conjoncture. La question du chômage est la question numéro un.
À la fin des années
90. Les gens ont peur pour leur emploi. La jeunesse, on leur dit, il n'y aura pas de toute façon d'emploi pour vous après votre diplôme, quel qu'il soit. Et donc, il y a vraiment cette crainte de ne pas trouver un travail. Aujourd'hui, on est dans des situations tout à fait étonnantes, il faut le dire, avec une croissance en berne, mais en même temps, un emploi qui tient le coup. C'est-à-dire qu'en tout cas, les indices chômage se sont pas aussi élevés. Non. Et donc là, on sent bien...
La qualité de l'emploi est peut-être pas la même.
Tout à fait, exactement. Et donc, à ce niveau-là, mobilisation sociale très différente par la structuration, mobilisation aussi symbolique différente. J'ai quand même l'impression aussi que depuis une quinzaine d'années, là il faudrait demander à un collègue anthropologue, sociologue, mais que cette mobilisation, elle est un petit peu différente depuis aussi la crise, la pandémie. On n'est pas du tout dans des formes de manifestations sociales, de démonstrations aussi explicites que dans les années 90. Il y a quelque chose qui a changé. Et d'ailleurs, on l'a remarqué aussi, les grandes mobilisations des années fin 90-2000, c'est pas pour des causes socio-économiques, même si Clabecq et Vilvoorde avaient fait 60 000, 70 000 personnes dans la rue, c'est plutôt pour des affaires de mœurs aussi. Hein. C'est plutôt pour des affaires...
La marche blanche, notamment, qui est cette année-là,
Mais
ou l'année suivante.
Tout à fait. Et j'ai retrouvé des interviews où des sociologues s'en émeuvent en disant les grandes causes aujourd'hui, elles sont plutôt d'ordre, on va dire, de l'émotion. Hein. C'est la charge émotionnelle. On va moins dans la rue pour des causes sociales et économiques. C'est peut-être toute cette histoire-là aussi qu'il faudrait revoir.
Il y a peut-être une dernière chose, c'est que la nature de la restructuration n'est pas la même chez Renault-Vilvoorde et chez Deleuze. Chez Renault-Vilvoorde, c'est une fermeture avec, on va le dire, un peu traditionnelle, comme on l'a connue pendant des années, avec mise à la prépension, délocalisation, et puis mise à la prépension, etc. Ouais. Chez Deleuze, c'est une franchisation. C'est aussi un peu un nouveau modèle de restructuration.
C'est tout à fait ça. C'est un nouveau modèle de restructuration, comme vous dites. Et là, le patronat a appris un petit peu ces leçons, j'ai envie de dire. Ils ont regardé en arrière, ils se sont dit aujourd'hui, il faut trouver d'autres modèles narratifs pour annoncer les choses. Il y a bien sûr la loi Renault, mais il y a aussi dans les entreprises actuellement des divisions de communication de crise. Donc on a appelé les experts, on a lissé son discours et effectivement, ça marche puisque en parlant de franchisation, on a complexifié le discours. On ne parle plus du tout de restructuration. Ce mot est tabou, il a disparu. Non, c'est maintenant, ça fonctionne. Il y a juste à voir la franchise. Et donc, c'est très intéressant de s'en rendre compte. Il y a eu vraiment ce travail pour finalement faire passer la pilule et que ça fonctionne sur le plan social.
Merci Kenneth Bertrand. Je rappelle que vous êtes historien de l'économie à l'ULB, de nous avoir aidé à décrypter ce conflit Renault et de voir les résonances avec le conflit notamment social chez Deleuze aujourd'hui.
C'est bon.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec l'aide des archives de la SONUMA et à la réalisation Jonathan Remy.